c'est parti. Donc cette fois-ci, on est sur la... Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans le baptême? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait en nous? Et un peu la façon dont ça... Comment ça agit, en fait? Comment ça nous transforme? Alors, il y a des choses qu'on va reprendre un petit peu, parce qu'on l'a quand même vu à travers le baptême du Christ. Là, c'est de les reprendre vraiment en essayant d'approfondir et de voir vraiment le moteur de ce qui se passe. Pour suivre ce cours, on va suivre en fait l'Épître aux Romains, principalement les chapitres 6, 7, 8, un peu de 5 aussi, qui est un vrai cours sur qu'est-ce qui se passe au baptême. Qu'est-ce que ça veut dire d'être baptisé. Donc on va vraiment suivre Romains. Je vous ai mis aussi quelques références sur la première de Saint Jean. On vient de la lire là depuis 15 jours dans le temps de Noël. Elle est aussi très tournée sur le baptême, mais peut-être moins didactique en termes d'explicitation de ce qui se passe et des différents leviers. Donc dans la lettre de Saint Paul aux Romains, donc en annexe, je vous ai mis deux choses sur la lettre de Saint Paul. Je vous ai mis la dernière page, c'est vraiment le déroulé de la lettre de Saint Paul, comme ça vous avez un résumé, mais les points abordés. Et vous voyez bien que les chapitres 6 à 8 sont vraiment le cœur sur la sanctification et la vie dans l'esprit, donc exactement notre thème. Et puis en page juste avant, je vous ai mis une partie de Romains 6, 3, 11, qu'on va utiliser un petit peu dans le cours, et pour bien voir comment il fait le parallèle entre ce que fait le Christ et ce que nous on fait. Voilà, donc c'est pour compléter... et de toute façon, je vous invite à lire toute la lettre à Saint Paul aux Romains, surtout chapitre donc 6, 7, 8. Et puis, je vous invite à lire la première de Saint Jean ou la relire, puisqu'on vient de la voir un peu au fil des 15 derniers jours. Donc, ce que fait Paul dans cette lettre, donc il centre vraiment tout sur le fait que tous sont péchés et que la justification vient par la foi en Jésus-Christ. Donc, on est exactement sur le thème du baptême. Il utilise Abraham pour illustrer que la foi et non la loi est le moyen d'accéder à la justice. Donc on va avoir ce rapport entre la foi et la loi, ou l'ancienne loi et la nouvelle loi. Grâce à la justification, le croyant vit une vie nouvelle en Christ et libéré du péché, il vit selon l'esprit. Donc c'est pour ça qu'on va regarder dans un premier temps ce que c'est que la rémission des péchés, qu'est-ce qui se passe de cette libération du péché. Et puis dans un deuxième temps, la configuration Christ et la vie dans l'esprit. Il emploie plusieurs formules qui essayent d'expliquer ce qui se passe et qui vont être un peu notre fil justement pour expliciter. Donc la vie nouvelle, la résurrection qui ressemblera à la sienne, donc là c'est bien le parallèle avec Jésus, configurée à l'image de son fils, tout le thème de l'adoption, qu'on retrouve aussi dans Galates et principalement, greffé, cette notion de greffe, héritier de Dieu, héritier avec le Christ, et l'Esprit de Dieu habite en vous. Alors, et le sanctuaire de l'Esprit Saint, donc là c'est plutôt dans 1 Corinthiens, mais on a un peu l'équivalent dans Romains, mais la phraséologie sanctuaire de l'Esprit Saint est très parlante. Alors dans un premier temps, pour la rémission des péchés. Donc déjà, il faut bien voir que Saint Paul, son point de départ, c'est que c'est la question du péché, en fait. Et donc le baptême chrétien est une réponse au péché originel, et à notre péché à nous. Donc la domination du péché, elle est claire, elle fait partie de la condition humaine, depuis Adam jusqu'au Christ, elle concerne tout homme, juif comme païen, ce qui fait que quand il s'adresse aux Romains, il s'adresse pas seulement aux Israélites, mais aussi finalement à tout le monde. Alors, quand on regarde l'Ancien Testament, on voit qu'entre Genèse 3, donc où c'est l'explicitation du péché originel, et puis quasiment jusqu'au Nouveau Testament et Saint Paul, on a peu de mention du péché originel. On a quelque chose, j'ai mis deux citations, une de Psaume 51 et puis une d'Isaïe, voilà, qui aborde un peu cette thématique, mais globalement c'est peu creusé. Voilà. Le péché, il a deux caractéristiques majeures, donc il est conduit à la mort, ça c'est le plus facile à qu'on voit. Et puis le terme donc qu'il utilise, que Saint Paul utilise, Thanatos, désigne moins la fin de la vie terrestre que cette puissance de mal qui s'oppose à la vie et sépare l'homme de Dieu. Donc on a cette double configuration, que le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu, qui s'oppose à la vie et qui est donc la mort. Voilà. Et donc, dans cette distinction importante, l'homme pécheur est déjà en cette vie marqué par la mort, c'est clairement, et là, alors que le croyant, inversement, dès ce monde, est délivré de la mort. Et d'autre part, le péché exerce un pouvoir tyrannique sur les êtres humains. Donc on a ce qui était l'exemple de ce que la nudité d'Adam et Ève nous montrait sur la fragilité de l'homme par rapport à son entourage. Et cette fragilité, elle est vécue comme un manque après le péché originel, justement, alors qu'avant, elle ne l'est pas. Et donc, quelque part, on pourrait dire que le péché originel, c'est comme s'il introduit une loi de l'apesanteur qui contrarie l'attraction divine. C'est-à-dire qu'au lieu d'être attiré par Dieu et d'être en... Voilà, de plus en plus proche et de plus en plus allant vers Dieu, bah en fait c'est l'inverse, et il nous éloigne de Dieu et il nous fait tomber quelque part sur la terre au sens nous rapproche de l'animal. Voilà. Et le péché soumet aux convoitises et l'entraîne à des comportements injustes. Donc on a cette thématique aussi sur la justice et l'injustice. Alors, ce que nous dit Saint Paul dans l'Épître, notamment tous les paragraphes donc 4, 5, 6, 7, enfin, il en parle à peu près tout le temps, ce qu'il affirme, c'est que la loi fait connaître le péché. Donc, elle est intéressante parce qu'elle permet de voir où est le péché. Elle éclaire la conscience. La loi, elle est donc sainte, et saint le précepte, et juste et bon. Donc, il affirme que la loi, elle est bonne, puisqu'elle vient de Dieu. Mais il affirme en même temps aussi qu'elle ne donne pas la force de vaincre le péché. Donc la loi ne justifie pas. Ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la pratiquent. Or, nul ne parvient à observer parfaitement la loi. Ainsi, nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Parce qu'on est incapable de le faire correctement. Donc, on y est... voilà, y a, la loi, elle est bonne, mais elle est sainte, mais elle est inefficace, au sens où elle ne nous permet pas, elle ne nous aide pas, elle nous éclaire un peu la conscience, mais elle ne nous aide pas à passer du bon côté. Donc la loi donne la connaissance du péché, mais non la grâce pour le vaincre. Donc on peut dire que la loi, dans l'Ancien Testament, elle a un rôle de préparation, de pédagogie, puisqu'elle a préparé le peuple à la venue du Christ, et elle a figuré ce qui pouvait être la justice à venir, et suscité ce désir d'un salut, voilà, qu'on ne pouvait que recevoir de Dieu. Donc quelque part, la loi, elle annonce le Christ, l'aboutissement de la loi, c'est le Christ, afin que soit donnée la justice à toute personne qui croit. Donc là, on est bien exactement sur le fait que c'est le Christ qui nous donne la justification et non pas juste la loi. Voilà. Donc ce que le Christ a fait, Dieu en envoyant son propre Fils avec une chair semblable à celle du péché et en vue du péché, a condamné le péché dans la chair, afin que le précepte de la loi fût accompli en vous dans la conduite, n'obéit pas à la chair mais à l'esprit. Donc c'est une citation de Romains que j'ai oublié de mettre c'est une citation depuis le début. Donc là, il y a le mot « chair » qui intervient et qui a un peu deux sens différents. D'une part, il signifie la condition charnelle de l'homme, c'est-à-dire quelque chose en rapport avec la vie corporelle. Donc, par exemple, quand il dit aussi dans Romains 4 « Abraham, notre ancêtre selon la chair », donc on est bien dans cette dimension du corps. Et ce sens est présent dans cette phrase-là, dans « il a condamné le péché dans la chair ». Donc là, c'est « condamné le péché dans le corps ». Voilà. Et c'est aussi l'arrière-plan de la formule, une chair semblable à celle du péché, dans la mesure où le Christ prend sur lui la condition humaine tout entière, hormis le péché qui est un accident de cette condition. Accident au sens philosophique du terme, et donc qui n'est pas la substance, voilà, et qui donc peut être différent de... Voilà, qui peut être différent à certains moments. Donc il n'est pas lié à notre substance ou à notre être d'être humain, mais il est un accident de notre condition, suite au péché originel. Et il y a un autre sens de chair dans cette phrase-là, c'est aussi l'opposition entre chair et esprit. Et donc c'est précisément notre condition charnelle, non pas en elle-même, mais en tant qu'elle est soumise au pouvoir du péché, car le désir de la chair, c'est la mort, tandis que le désir de l'esprit, c'est la vie et le pain. Et donc quand il dit en condamnant le péché dans la chair, c'est-à-dire en faisant passer le souffle de l'esprit jusque dans l'engrenage de mort hérité du péché, le Christ a inauguré une autre logique. Voilà, et c'est toute la thématique de Romains 5 sur quand la loi, à la loi de Moïse, elle est intervenue pour que se multiplie la faute. Donc ça, c'est l'idée que la loi, elle révèle juste le péché. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Oui. Ainsi donc, de même que le péché a établi son règne de mort, de même la grâce doit établir son règne en rendant juste pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc on a bien cette opposition. Donc la chair, elle n'est pas mauvaise en tant que telle, le corps n'est pas mauvais en tant que tel, mais en tant qu'il est... dans la condition pécheresse accidentelle qu'on a, bah du coup, il est opposé à la vie de l'esprit, qui est la vie qui vient de Dieu. Et donc, c'est exactement ça qui se passe, qui s'est passé dans Jésus-Christ, et qui nous est donné au baptême. Donc la justice, elle est donnée par la foi en Jésus-Christ. Donc ce n'est pas la loi qui nous rend juste, mais nous estimons que l'homme devient juste par la foi, indépendamment de la pratique de la loi de Moïse. Alors en fait, après saint Paul, il parlera qu'il faut quand même suivre les 10 commandements. Saint Paul ne dit pas « faites n'importe quoi », on verra un peu plus tard. Donc c'est pas en contradiction, mais en tout cas, c'est pas le moteur de notre justification, c'est pas la pratique de la loi, parce qu'on est incapable de le faire correctement. Donc le baptême, il est bien reçu dans la foi, donc on est bien sur la foi en Jésus-Christ, et cette foi est ce qui permet de bénéficier des grâces du baptême. Donc le baptême, il confère la justification en donnant le pardon des péchés et la réconciliation avec Dieu. Par le baptême, tous les péchés sont remis, donc le péché originel, tous les péchés personnels, ainsi que toutes les peines dues au péché. Donc ceux qui ont été régénérés, il ne demeure rien qui les empêcherait d'entrer dans le royaume des dieux, ni le péché d'Adam, ni le péché personnel, ni les suites de péchés, dont le plus grave est la séparation de Dieu. Donc quelque part, ce qui est vaincu au baptême, et donc ce que le Christ a vaincu pour nous, c'est la fatalité du mal. Donc parce que le Christ, lui, il a pu être un homme sans péché, et en allant jusqu'au bout de la mort et la résurrection, on va le voir juste après, il a cassé quelque part, ou il a créé une brèche dans notre condition humaine, qui fait que maintenant, notre liberté, elle peut s'exercer. Alors, il n'y a plus la fatalité du mal, on n'est plus enfermé dans le mal, il y a une brèche qui est ouverte. Et donc, quelque part, le baptême, il enlève le dard du péché, et le poison, il peut s'évacuer par la brèche. On verra dans la quatrième partie que ça met un peu de temps et que c'est pas immédiat. La preuve, c'est que on va quand même mourir un jour, là, tous autour de la table. Enfin, sauf s'il y a le jugement dernier qui intervient avant, hein, mais sinon, c'est quand même... Donc on verra comment il y a ce décalage dans le temps. Donc, en effet, à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a établi son règne, combien plus, à cause de Jésus-Christ de Luciel, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en abondance le don de la grâce qui les rend justes? Alors, je vous fais un petit rappel de Aristote. Je vous ai parlé des accidents. Mais Aristote, il identifiait 4 types de causes. Donc, efficiente, formelle, matérielle et finale. Nous, en général, on pense que à la cause efficiente, c'est-à-dire le moteur, ce qui fait que telle chose a telle conséquence. Mais en fait, la cause formelle, elle est intéressante dans le thème du baptême pour se dire concrètement qu'est-ce qui nous est donné par le baptême. Donc, la cause formelle, c'est l'essence d'une chose ou d'un être. Donc c'est un peu le concept, on va dire, d'une table. C'est le concept d'une table. Ça inclut un certain nombre de choses. Voilà. Donc c'est cette idée de table, donc cette idée d'être humain. Et en fait, c'est ce qui se passe au baptême. Elle libère du péché parce qu'elle change la forme spirituelle de la personne. C'est-à-dire que la forme qui était après le péché originel, qui était marquée par le péché, et donc enfermée autour de ce péché, ce que fait le baptême, c'est qu'il nous transforme cette forme qui devient la forme spirituelle, qui nous, quelque part, nous remet dans la ressemblance, on le verra tout à l'heure un petit peu après, la ressemblance avec le Christ. Donc il a fait passer de l'état de pécheur à celui de justifié, et cette nouvelle forme spirituelle, c'est ce qui lui permet d'exercer quelque part et de se libérer du péché dans le vrai. Donc c'est pour ça qu'on parle du baptême comme une nouvelle naissance. Cette naissance spirituelle sur cette nouvelle forme qui définit la nouvelle vie en Christ, où le péché n'a plus de pouvoir sur l'individu car il est désormais en communion avec Dieu. Donc le péché originel qui avait créé la séparation d'avec Dieu, qui avait montré la fragilité qui nous avait tiré vers le côté animal finalement, loin de Dieu, en fait ce que fait le baptême, c'est qu'il nous remet dans cette dimension spirituelle et donc en lien avec Dieu. Voilà, et donc saint Paul oppose la vie nouvelle dans l'esprit à la vie ancienne selon la chair, qui nous fait passer de la loi ancienne à la loi nouvelle, du décalogue au précepte de l'amour. On n'est pas juste à observer des commandements, mais à vivre de l'amour et donc vivre à l'image du Christ. Maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à ce qui nous entravait. Ainsi, nous pouvons servir d'une façon nouvelle, celle de l'esprit, et non plus à la façon ancienne, celle de la lettre de la loi. Alors là, on aborde un petit peu, du coup, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le baptême. Alors on va aller plus loin, parce que je suis sûre que c'est pas encore complètement abouti, cette histoire. Donc là, ce qu'on va voir dans cette deuxième partie, c'est plutôt les degrés d'imitation du Christ, puisqu'on voit ce que ça nous ramène du côté de Dieu, et donc à l'imitation, à la ressemblance du Christ. Donc en fait, il y a une première chose, c'est que dans le baptême, en fait, on imite la passion et la résurrection du Christ. Donc c'est l'imitation au sens le plus, on va dire l'étape 1 de l'imitation. voilà, où on est un peu extérieur. En fait, via le baptême, on vit la passion du Christ et donc sa résurrection. Voilà. Et ça, c'est en écho avec ce que le Christ lui-même avait annoncé quand il annonçait sa passion. Toutes les thématiques autour du baptême, c'est mais le baptême que je dois vivre est encore à venir, etc. Et j'ai hâte qu'il soit là, toutes ces thématiques-là. Donc, c'est les références de Marc et de Luc. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Donc ça, c'est ce qu'on a vu quand on a regardé la fois dernière les rites du baptême. Il y a vraiment cette idée d'imiter, au sens même où on plonge dans le baptistère et on se relève. Donc on est vraiment dans la configuration, ou même ce qu'on a regardé quand on a étudié le rapport entre notre baptême et celui du Christ. Donc les croyants reçoivent les fruits de cette victoire en étant plongés dans sa mort pour renaître dans sa résurrection. Et c'est là où Saint Paul, et c'est d'où mon tableau là en 6, en page 7, c'est vraiment de faire le parallèle entre ce qui se passe par le Christ et ce qui se passe pour nous. Voilà. Et donc on est vraiment dans cette comme, donc c'est tous les préfixes sin, comme synonyme, c'est la même idée, c'est comme. Voilà. Nous avons été ensevelis avec lui, nous sommes devenus à manière d'être avec le Christ, nous avons été crucifiés avec lui, nous vivons avec lui. Donc comme le Christ l'a fait, nous aussi on le fait avec lui. Voilà. Alors, degré un petit peu plus supplémentaire de l'imitation, c'est pas seulement une imitation extérieure, ce qu'on pourrait voir dans ce baptême qui s'est déroulé, mais c'est une vraie circoncision. Quelque part, c'est quelque chose qui nous marque, y compris dans notre chair. Voilà. Dans la lettre aux Colossiens, Paul reprend le lien du baptême avec la mort et la résurrection du Christ, et il ajoute l'affirmation que le baptême est la vraie circoncision. En lui, le Christ, vous avez reçu une circoncision qui n'est pas celle que pratiquent les hommes, mais celle qui réalise l'entier dépouillement de votre corps de chair. Telle est la circoncision qui vient du Christ. Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui, vous êtes ressuscité avec lui par la foi, en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des fautes et vous n'aviez pas reçu la circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ, il a pardonné toutes nos fautes. Et donc, l'image de la circoncision, ça dit bien que du coup, ça nous marque de façon plus indélébile. C'est d'ailleurs pour ça que le baptême n'est pas réitérable, c'est qu'on est marqué dans tout notre être, et pas seulement spirituellement ou en plus ou je sais pas quoi, on est vraiment transformé. Et donc les baptisés sont invités à une profonde conversion du regard. Quelque part, c'est la dynamique du cœur qui est changée, avec une profonde conversion du regard, du mentalité sur la dynamique de leur existence. Donc on n'a plus à attendre d'être sauvé comme les juifs de temps de Jésus, mais ça y est, le salut il est obtenu et il nous est offert, et nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Alors, un cran plus loin encore dans cette imitation de Jésus, cette ressemblance, c'est greffé au Christ pour la vie éternelle. Donc, quand Jésus est sorti du tombeau, il n'est pas simplement retourné dans un corps semblable au précédent, mais avec un corps de résurrection glorifié, pourvu de caractéristiques célestes. De la même façon, celui qui par le baptême est identifié au Christ est appelé à une vie dotée d'une qualité nouvelle. Il est séparé de la puissance du péché, de son pouvoir sur lui, et il reçoit une nouvelle nature. Alors, c'est un peu ambigu parce qu'on n'est pas avec une nouvelle nature au sens... Enfin, il faut se méfier du terme nature, il peut être interprété. Donc, une nouvelle... on va être comme dans la forme d'Aristote. Enfin, c'est plutôt une nouvelle forme. Ce n'est pas une nature complètement différente. Voilà, on est quand même un être humain. Voilà. Nouvelle nature par le Saint-Esprit qui lui permet de vivre en nouveauté de vie. Voilà. Mais il y a quand même cette idée de nouveauté de vie. Et donc, le parallèle avec la greffe. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une greffe? Une branche greffée sur un nouvel arbre. En fait, c'est on quitte la lignée d'Adam et on est rattaché à celle du Christ. Donc, quelque part, on quitte le côté pesanteur et de la lignée du péché pour être rattaché au Christ qui, lui, est sans péché et qui nous ramène à Dieu. Ainsi, l'ancienne personne que nous étions autrefois était crucifiée ensemble avec le Christ. L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Et donc, c'est la transformation radicale opérée par le Christ. Pêcheur, l'homme l'est toujours, puisqu'on est toujours... on sait bien qu'il y a... Voilà, on pêche encore. Donc, c'est ce qu'on verra aussi dans la partie sur le déjà là et pas encore. Mais il est désormais greffé sur le Christ et rien ne pourra le séparer de l'amour qui l'unit à lui. Donc, la greffe, c'est vraiment ça. C'est qu'elle va puiser sur son nouveau tronc et elle a abandonné le précédent. Voilà, donc elle sait... Il y a une mort, parce qu'il y a une mort, on est arraché de l'ancien et on est... renouvelé et replugué quelque part sur le nouveau cep divin qui est le Christ. salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et du coup, comme on est greffé au Christ, qui est la vie en plénitude, bah, du coup, c'est pour la vie éternelle. Cette, voilà, là, on change aussi de typologie de vie. Le dernier stade, c'est christifié. Alors là, je fais référence à Nicolas Cabasilas, qui est du 16e siècle, mémoire. Je n'ai pas mis les dates, j'aurais dû. Qui est un laïc qui a beaucoup écrit, et qui notamment écrit La vie en Christ, où, en fait, il inverse le schéma. C'est-à-dire, quand on étudie les pères de l'Église, on était plutôt, on imite le Christ, c'est ce que je vous ai dit pas mal là au début. Pour Nicolas Cabasilas, c'est l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que c'est le Christ, quelque part, qui vient habiter en nous. Donc, quelque part, c'est le mouvement inverse, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui imitons le Christ, c'est le Christ qui vient demeurer en nous. Voilà. Ce n'est pas l'homme qui est attiré par Dieu et qui tente de se rapprocher de lui, mais l'inverse. Ce n'est pas la brebis qui est partie à la recherche du berger, ni la drachme à la recherche du maître de la maison. J'aime bien l'idée de la drachme qui est en train de chercher le maître de la maison. Ça me fait beaucoup rire. Et il dit, c'est ça, toute la vie sacramentelle, finalement le baptême en premier, puisque c'est lui qui nous ouvre la voie au sacrement. Mais tous les sacrements, et éminemment l'Eucharistie, c'est bien Jésus qui vient demeurer et vivre en nous. Donc on est bien dans cette logique inversée, c'est pas seulement nous qui essayons d'imiter. Donc on est très très loin de la loi de l'Ancien Testament, qui était d'essayer d'imiter les bonnes pratiques de Dieu, à quelque chose qui est l'inverse, et on laisse le Christ habiter en nous, et c'est ce qu'on va voir dans la troisième partie avec le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que dans Galates, le Saint Paul dit « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi », ce qui est quand même très fort. Et qui est lié vraiment à cet amour de Dieu qui quelque part déborde de lui-même, qui se déverse hors de lui-même en nous. Voilà. C'est vraiment cette surabondance d'amour que le Christ a vécu en venant nous trouver et qui est ce qu'on vit au baptême et puis dans toute la suite des sacrements, puisque c'est propre, c'est vrai pour tous les sacrements. Alors une fois qu'on a dit ça, en fait c'est le sujet de la grâce, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que le Christ il vient habiter en nous, qu'est-ce qui fait que quelque part on reçoit tout ça au baptême, c'est le mot de la grâce. Donc, alors qu'est-ce que la grâce? Parce que c'est elle qui finalement est le moteur. Parce que là, on parlait de la cause formelle, mais là, c'est la cause quasiment efficiente. C'est le Saint-Esprit. Parce que la grâce, c'est pas le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui vient prendre les choses en main et agir. Voilà. Donc la grâce rend juste devant Dieu, non par ses propres œuvres, mais par la foi vivante animée par la charité. Donc quelque part, la foi vivante, c'est on reçoit. C'est qu'on adhère à ce fait qu'on reçoit. Donc on est bien dans cette démarche où c'est pas nous avec nos petits bras qui nous sauvons et qui allons vers mieux, mais c'est bien Dieu qui vient vers nous et qui nous rend juste. Donc le baptême est le sacrement qui confère la grâce sanctifiante. Finalement, au début, ce qu'on a regardé, on a parlé de justice, et donc on parle de la justification. Donc quand on parle de la rémission des péchés que le baptême opère en nous, ben en fait, il nous justifie, c'est-à-dire qu'il nous rend juste, quelque part, il nous rend propre, il nous remet ajusté, puisque ça veut dire justification, ajusté à Dieu. Voilà. Là, on est un cran plus loin, puisque la sanctification, elle va aller beaucoup plus loin que la justification, puisqu'elle va nous rendre, nous restaurer la ressemblance avec le Christ. Donc, c'est pas juste, elle répare pas juste un problème. Elle nous rend encore plus, enfin quelque part, même au paradis, nous baptisés, c'est même plus grand que Adam au paradis, quoi. Quelque part, on est encore plus en Dieu. Voilà. Donc, je reprends mon fil. Saint Thomas d'Aquin définit la grâce comme un don surnaturel de Dieu qui élève l'homme au-dessus de sa nature. Pareil, l'ambiguïté sur nature, donc on reste homme, mais quelque part, c'est pour ça qu'on parlera de divinisation, on a quelque part comme si on avait un surplus de nature divine, et le rend capable de participer à la vie divine. Donc la grâce, elle est nécessaire, comme vous l'avez bien compris, parce que la nature humaine blessée par le péché originel ne peut atteindre sa fin ultime, qui est la vision de Dieu, sans l'aide surnaturelle de Dieu. Et donc la grâce sanctifiante, reçue au baptême, transforme l'âme, donc c'est une vraie transformation, la rend agréable à Dieu et capable de la vie éternelle. Quelque part, de la même façon que hier au baptême, la voix du Père a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me complais, ou prends mon plaisir, enfin, selon les traductions. » Quelque part, c'est ce qui se passe à notre baptême. On est rendu fils et ou fille bien-aimée du Père. Et donc, quelque part, on est rendu agréable à Dieu. Parce qu'en nous, au baptême, il voit quelque part un peu son fils. Voilà. Parce qu'on est déjà un peu reconfiguré. Et donc, il revoit l'homme tel qu'il l'a voulu, c'est-à-dire non pas pécheur, mais dans son amour. Et capable de la vie éternelle. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc la Sainte Trinité donne aux baptisés la grâce sanctifiante, la grâce de la justification, donc c'est la première étape, mais aussi d'aller jusqu'à l'aimer, ce sont les vertus théologales, et donc c'est ça aussi la sanctification, qui donne de pouvoir vivre et agir sous la motion de l'Esprit Saint et qui lui permet de croître dans le bien par les vertus morales. Donc là, c'est tout le thème aussi de la lumière. Je passe parce qu'on l'avait déjà vu. Et donc, on a bien l'Esprit qui nous apporte la possibilité de répondre aux appels de Dieu, et c'est grâce à lui que notre volonté peut s'ouvrir à la grâce des autres sacrements, le baptisé et le sanctuaire de l'Esprit Saint, comme il est dit en 1 Corinthiens. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, quelque part, c'est le Christ qui vient, mais c'est aussi l'Esprit. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand Jésus a envoyé son Esprit sur les apôtres, à la petite Pentecôte, donc avant la Pentecôte, quand il les retrouve après sa résurrection, où il souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez leur seront retenus. » Donc on a bien cette puissance vitale, donc ce souffle, il souffle sur eux, souffle émanant de l'être même de Jésus, quelque part qui leur donne ses propriétés, alors c'est l'Esprit Saint, mais c'est aussi les propriétés, et qui, quelque part, permet d'annihiler la puissance de mort qu'est le péché. C'est au même moment qu'il fait ça qu'il leur donne le pouvoir de remettre les péchés. Donc on est bien dans le même cadre que le baptême, dans cette petite Pentecôte. Et donc on a la ressemblance retrouvée. Donc ce que fait le baptême, c'est qu'il nous rend donc semblable au Christ. Et cette ressemblance, en fait, elle n'est pas seulement une imitation pure et simple des faits et gestes de Jésus. Elle n'est pas non plus une transformation en copie conforme. Donc, quand on dit « ce n'est plus moi, c'est Jésus qui vit en moi, c'est le Christ qui vit en moi », ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de saint Paul. C'est au contraire que saint Paul est quelque part reconfiguré. Donc, on voit bien qu'il y a... c'est pas l'idée de faire des clones de Jésus, c'est pas ça la création. Et donc, on a tous à rester ce qu'on est. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est que l'Esprit imprime en nous le mode d'être filial du Christ. Et il nous transforme en fils. Donc on se remet bien dans la bonne configuration qui est à la ressemblance du Christ, qui lui est le fils de toute éternité. Et donc on peut l'être nous aussi. Il configure notre âme pour que Dieu le Père y voit la face de son fils. C'est ce que je vous disais sur la phrase du baptême. C'est la véritable circoncision du cœur annoncée par les prophètes qui, loin de se réduire à un acquiescement passif de la créature, requiert la collaboration de toutes ses énergies. Et donc, l'Esprit, non seulement il imprime en nous l'image du ressuscité, non seulement il restaure, quelque part, en enlevant le péché, il restaure notre capacité, notre liberté, notre volonté, capacité d'aimer, mais il dispense aussi la plénitude de sa puissance pour que notre volonté participe à cette obéissance qui fait de nous les fils du Très-Haut. Et ainsi, on est ressemblant... on garde notre nature humaine, mais quelque part, elle est orientée, divinisée, pour un mode d'existence conforme à l'adoption que le Christ nous a acquise par son sacrifice. Et on peut faire le parallèle avec à Gethsémani, pour le Christ, où la volonté divine et la volonté humaine coexistent, mais il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre, mais finalement, elles sont en collaboration pour accomplir la mission de Jésus. Et donc, on a bien cette... quelque part, exactement ce qui se passe après le baptême, c'est que notre volonté qui était abîmée par le péché, qui du coup ne voulait plus du tout, ou n'arrivait pas à vouloir ce que voulait, ce que veut Dieu, ben là, on est dans, comme à Gethsémani, on peut avoir une connivence entre les deux. Et c'est ça la ressemblance, en fait. C'est qu'on est vraiment fils jusque dans cette adéquation entre notre volonté humaine et la volonté de Dieu. Et il respecte notre spécificité, notre créature. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a toute la Trinité qui est à l'œuvre. On voit bien qu'il y a le Christ au baptême, on est configuré au Christ, et c'est l'Esprit qui vient vivre en nous et qui nous marque. Donc on a bien toute cette thématique, et quelque part, on a le Père qui nous... Je vous l'ai mis un peu plus loin. On a le Père qui nous dit, voilà, tu es mon enfant bien-aimé. Donc on a bien, c'est toute la Trinité qui nous embarque dans cette ressemblance. Alors donc là, c'est les deux thématiques, enfants de Dieu. Alors ça, on l'avait déjà beaucoup vu, il me semble, la fois dernière, mais bon, ça vaut toujours le coup de le rappeler. Donc c'est Dieu qui a l'initiative, et donc c'est vraiment sa volonté. Ce qu'il veut, c'est quand il veut nous sauver, c'est nous remettre dans la configuration d'enfants de Dieu, voilà, à l'image de son fils à lui. Ce que d'avance il connaissait les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son fils, pour que ce fils soit le premier né d'une multitude de frères. Grâce au baptême, on est participant de la nature divine. Et là, c'est toutes les thématiques sur cela, son fils de Dieu. Je vous ai mis je ne sais pas combien de références là-dessus. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Voilà. Et donc, on a bien cette capacité à appeler, et quelque part, on peut dire notre Père après le baptême. Voilà, parce que là, on est effectivement dans cette grâce au Saint-Esprit, on peut dire vraiment Père. Et donc, on est comme la naissance virginale de Jésus. Donc, c'est notre deuxième naissance, elle est à son image virginale, où finalement, il est engendré de l'Esprit Saint, et c'est ce qui se passe à notre baptême. On n'est pas né du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Voilà, et on devient de la famille de Dieu. Et ça, c'est la phrase de Matthieu. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Voilà. Et la deuxième thématique qui est liée à cet enfant de Dieu, c'est le fait qu'on est héritier. Donc ça, c'est aussi en cette dimension jusqu'à la gloire, pour avoir part à sa vérité, à sa bonté, à sa beauté. Et donc, quelque part, il nous révèle non seulement notre origine, mais aussi le sens de notre vie, c'est participer à la gloire de Dieu dans la Jérusalem céleste. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. Ainsi, tu n'es plus esclave mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier, c'est l'œuvre de Dieu. Voilà, et cet héritage, quel est-il? C'est ce que saint Thomas nous dit. Quelqu'un est dit héritier d'un autre s'il reçoit ou désire des biens essentiels de cette personne. Or, le bien principal, et finalement le seul dont Dieu a envie de nous faire hériter, c'est lui-même. Voilà. Et donc, quelque part, notre héritage, c'est Dieu en nous. Donc, quelque part, déjà dans le baptême, on a notre héritage, puisqu'on a le Saint-Esprit. C'est pour ça que saint Paul parlera des arts de l'héritage en disant, voilà, on a déjà un acompte conséquent, puisqu'on a déjà le Saint-Esprit. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, en fait, c'est pas tout à fait la réalité de ce qu'on vit. Hein. Pour être très clair, la contradiction, c'est que on voit bien que le baptisé, il y a toutes les conséquences temporelles du péché qui demeurent, la souffrance, la maladie, la mort, les fragilités inhérentes à la vie, l'inclinaison au péché, on a quand même du mal à s'en sortir de ce truc-là, donc ce que la tradition appelle la concupiscence ou métaphoriquement le foyer du péché, voilà. Et c'est assez amusant de regarder je sais pas si c'est le bon terme d'ailleurs, mais bon, assez éclairant, de regarder dans saint Paul, tout comme saint Jean. Donc je vous ai mis on est à quelques versets d'écart. Donc sur saint Paul, il y a ainsi pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. La loi de l'Esprit qui donne la vie dans le Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc ça a l'air bien effectif. Et donc on est juste quelques versets avant. Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Donc, à quelques versets d'écart, c'est exactement la contradiction du baptisé. C'est qu'il est sauvé de la mort et du péché, il est configuré au Christ, il peut être comme le Christ, mais en fait, ça ne marche pas. Et saint Jean, il dit exactement la même chose dans sa première à saint Jean, pareil, verset 3-2 et verset 3-9, hein, donc on est vraiment juste après. « Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, car ce qui a été semé par Dieu demeure en lui, ne peut donc pas pécher puisqu'il est né de Dieu. » Et donc juste avant, « Ce que nous serons n'apparaît pas encore clairement. » Et donc, c'est pas encore gagné, quoi. Voilà. Bon, donc on est encore dans un système de contradictions. Alors, du coup, saint Paul résout un peu la question en parlant de l'espérance. Voilà. Et donc, il insiste sur le fait que d'un côté, notre résurrection n'a pas encore eu lieu. On est sauvé, mais en espérance. Et donc, c'est toute sa théologie des arts de l'esprit qui souligne que nous ne possédons pas encore la jouissance complète du don. Et donc, il marque en fait un peu comme deux étapes. Il y a la justification, c'est l'arrachement de l'homme à la condition pécheresse. Et le salut, qui indique davantage le but ultime, donc finalement, ce qu'on sera dans la gloire. Lorsque seront vaincus le mal et la mort. Et En fait, c'est la même antithèse entre le péché mort et de l'autre côté, la victoire du Christ sur les conséquences du péché. Voilà, donc on a cette antithèse, et comme s'il y avait un déroulé dans le temps. Donc saint Paul, il est exactement dans cette dimension eschatologique. Nous-mêmes qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Donc on a les prémices de l'esprit, mais notre corps, il n'est pas encore, il ne peut pas être encore dans la gloire. Voilà, on n'est pas encore ressuscité. Et donc, il utilise des verbes au présent pour dire déjà la vie nouvelle qui caractérise dès maintenant l'existence chrétienne. Donc, on est vraiment déjà dans le... C'est déjà là, c'est déjà réalisé. Et puis, la résurrection dont les baptisés vivront en plénitude à la parousie. Voilà, et il lui dit, bah, c'est, on l'attend avec constance, alors dans la lumière de l'Esprit Saint. Voilà, nous espérons notre salut, nous l'attendons avec constance. Eh bien, c'est tout le paradoxe de la croix dans l'homme racheté par le Christ, c'est-à-dire qu'il reste une misère, une fragilité essentielle qui sont de l'ordre de l'attente du salut. Nous avons part aux souffrances du Christ en attendant d'avoir part à sa gloire. Quelque part, Dieu est patiente pour le jugement dernier. Et en même temps, l'homme, il doit aussi patienter. voilà. Alors, il a pas resté sans rien faire, hein, on est bien d'accord, parce que saint Paul nous le dit très clairement, vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et la concupiscence, finalement, elle n'est pas capable de nuire à ceux qui n'y consentent pas et résistent avec la grâce du Christ. Donc, tout seul, on n'arrive pas à vaincre la concupiscence, mais avec la grâce du Christ, on peut lui résister. Et donc, dans l'Ancien Testament, il y avait vraiment l'espérance à venir. Donc, ils attendaient le salut, mais il était pour le coup que en espérance. Nous, depuis la passion et la résurrection du Christ, et depuis notre baptême, plus précisément pour nous, bah en fait, c'est déjà réalité. Voilà. Mais ça demande à être déployé. Voilà. Et donc, saint Paul le dit, que dire alors ? Allons-nous demeurer dans le péché pour que la grâce se multiplie ? Pas du tout, puisque nous sommes morts au péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ? Voilà. Et c'est tout le sens des exigences de la vie chrétienne. Et vous verrez que dans Romains, juste après, en fait, il parle de la vie chrétienne, qu'est-ce que ça veut dire, des vertus théologales, etc. Donc, il faut qu'on, étant sauvé, il faut qu'on vive en sauvé. Voilà. Et en fait, on voit que c'est le charisme ordinaire, la charité, paix, tout ça, appelle les fruits de l'esprit. Ben, en fait, c'est ce qui est déjà qu'on peut vivre aujourd'hui et qui sera dans la gloire. Voilà. Donc, c'est cette partie-là, ces fruits de l'esprit, cette vie de ressuscité, finalement. Alors, petit intermède pour dire le débat entre les catholiques et les réformés. Enfin, les protestants, mais plus spécifiquement les réformés, dans la suite de Luther. Donc, ça permet de recomprendre un peu quelque chose. Dans la perspective réformée, donc chez les protestants, la justification coïncide avec la situation du péché, sim justus et peccator. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu, il nous a déclaré juste à notre baptême. Quelque part, il nous a déclaré juste en mourant et en ressuscitant, mais c'est effectif à notre baptême. Et donc, c'est un peu comme si le Christ, il nous a couvert du manteau de la justice, mais qu'en dessous, ça reste pas terrible. Voilà. Donc, ça reste quand même assez extérieur. Pour les réformés, il y a quelque chose de... tout est reçu de Dieu, et donc, finalement, bah, on ne peut pas faire grand-chose nous-mêmes. Donc, c'est ce côté, ce manteau qui nous recouvre. Voilà. Pour les catholiques, alors, la réalité de la grâce, en fait, elle n'est pas seulement en Dieu. On pense qu'elle habite aussi dans le sujet qui la reçoit. C'est ce qu'il appelle la grâce créée. Et c'est ce que dit le Concile de Trente. La justice divine inscrite dans l'âme du baptisé va de pair avec une réorientation de sa vie qui entraîne au moins la volonté et la possibilité de réaliser des œuvres bonnes. Donc on peut donc aller vers une justification de plus en plus grande. Donc on est dans une perspective d'accroissement qui est développée dans le chapitre 13 du décret sur la justification du Concile de Trente. Et qui est lié en fait à une vision éminemment historique du salut, une vision dans le temps du salut. Et donc on est dans une logique de processus dans lequel l'être humain il a été créé bon. Maintenant il est abîmé par le péché, mais grâce au baptême et avec cette nouvelle vie et l'infusion de la grâce, c'est-à-dire de l'Esprit Saint qui vit en nous, la transformation est possible. Donc la grâce elle détruit pas tout, effectivement on reste pécheur, mais elle peut l'amener à sa perfection. Et c'est pour ça qu'on peut avoir des saints, par exemple. Sinon, il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Dans la théologie réformée, ben, du coup, il n'y a pas de saints. Voilà. Ainsi, la justification est immédiate, mais elle reste extérieure. Nous sommes par le baptême déclarés impeccables par Dieu, mais nous ne le vivons pas encore de l'intérieur. Et il reste la transformation du cœur à opérer la sanctification, et donc qui est bien la vie de l'esprit en nous. Voilà. Et en fait, pour réconcilier un peu ces deux vues, il faut bien voir que c'est une histoire de relation. C'est-à-dire que le salut, c'est le péché, ce qu'il a fait, c'est qu'il a cassé la proximité entre l'homme et Dieu. C'est d'ailleurs exactement Dieu qui cherche au paradis Adam, dans le jardin, Adam, et Adam qui se cache. Voilà, donc on est bien dans cette... il y a une distance qui s'est créée entre Dieu et l'homme. Voilà. Et donc le salut, qu'est-ce qu'il fait? Il remet cette relation possible, souhaité, désiré et possible aussi. Ouais. Voilà. Et donc la justice, c'est rien d'autre que d'être de nouveau la qualité de fils. Et donc quelque part, c'est une qualité de relation. Quand on parle de fils et d'adoption, c'est pas juste un statut. C'est pas je suis fils de Dieu au sens c'est mon nom quoi. Non, ça veut dire qu'on est dans cette relation filiale. Donc c'est ça qui restaure en nous. Voilà. Et donc du coup, on peut bénéficier de tous les dons de la maison paternelle. À la fois l'intérieur, la sainteté, mais aussi l'extérieur, la béatitude. Alors un petit peu plus tard, mais voilà. Et donc, ce que nous donne le baptême, c'est la capacité d'aimer, donc de restaurer une relation adéquate avec Dieu et aussi nos frères, et ce, par la maîtrise de sa volonté, de son corps et du cosmos. Et ça, c'est en sens que, comme on est libéré du péché originel, notre volonté, elle peut de nouveau être orientée correctement, on peut lutter contre les désordres du corps ou du cosmos, et on peut avancer. Donc, on n'a pas, les symptômes ne sont pas tous enlevés, on est clair, puisque les symptômes, ils restent là. Et ce sera seulement, Dieu ne ressuscitera l'homme dans toutes ses dimensions, donc la résurrection de la chair, elle ne sera qu'au terme, que lorsque le mal moral, la rupture du péché, sera définitivement vécue, non seulement dans l'individu, mais aussi dans une part significative de l'humanité. Donc, c'est quelque chose qui différencie quand même beaucoup les réformés qui ont une vision très individualiste des choses, de la vision catholique qui est justement aussi cette dimension communautaire qu'on vit quand on parle de la communion des saints. Voilà, c'est vraiment on n'est pas seulement un individu qui est en relation avec son Dieu, mais on sait très bien que la relation à Dieu elle est identique à la relation qu'on a avec nos frères et sœurs. Donc en fait elle est beaucoup plus consonante avec ce que Dieu, comment nous Dieu nous positionne et comment Dieu nous veut, c'est-à-dire en relation, non seulement avec lui, mais avec nos frères et sœurs. Donc on est bien dans cette dimension aussi communautaire et pas seulement individuelle. Voilà. Et donc l'eschatologie individuelle, si elle en fait purgatoire, il y a l'eschatologie communautaire. Et donc quelque part, il faudra attendre la résurrection. Donc la résurrection finale, donc finalement la manifestation que les corps sont vraiment dans cette nouvelle configuration et que le salut est en plénitude dans nos corps, c'est que à la fin des temps, parce que c'est que quand on sera aussi dans cette dimension communautaire de résurrection. Voilà, et donc il y a la guérison du cœur et en même temps le travail que ça prend pour qu'il y ait la résurrection de la chair. Voilà, donc on a le commencement de la victoire sur le mal moral, première justification au baptême, aucun mérite, on reçoit le baptême, aucun mérite de notre part. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut le donner à des enfants. Et puis l'ultime achèvement, et la vie chrétienne en fait elle se situe entre ces deux termes pour être tout tendue vers le face-à-face au ciel. Et donc elle se fait pas sans nous, la sanctification. Voilà, donc on n'est pas juste en train d'attendre, voilà, sur une sorte d'équilibre. On a déjà un don qui paraît indiscernable de la grâce dans le cœur du baptisé, mais on a déjà les fruits de l'esprit. Et donc, on a déjà quelque chose qui s'opère dans notre vie, dans celle de l'Église. Et on a comme un tuilage entre la promesse et la réalisation. Voilà. La grâce, elle agit déjà aujourd'hui et elle nous met en mouvement. La grâce initiale reçue dans les sacrements, éminemment dans le baptême, est source d'une mise en route de la liberté qui rend l'homme plus réceptif à cette grâce, mieux capable de l'assimiler. Et quelque part, c'est l'effet boule de neige dans le bon sens du terme, un cercle vertueux. C'est que ça va donner envie d'aller plus loin, etc. Et du coup, on assimile plus, et voilà. Et donc, malgré les lacunes et les rechutes liées à la condition de pécheur jusqu'à sa mort, cette grâce stabilise son vouloir profond, unifie ses affections, sculpte sa personnalité spirituelle. Et c'est ce qu'on voit quand... Il y a quand même des œuvres qui atteignent une certaine visibilité, quand on voit chez les saints, voilà, l'héroïcité des vertus, on voit bien qu'il y a quelque chose de déjà réalisable sur cette terre. Sinon, on pourrait pas déclarer, l'Église ne pourrait pas déclarer saint quelqu'un. Et de la même façon, dès qu'elle rejoint mystérieusement l'union des volontés dans le Christ, donc comme à Gethsémani quelque part, et ben en fait, on a déjà de la victoire finale, et c'est les miracles, par exemple. On a une anticipation de la résurrection finale. Voilà, quand on ressuscite un mort, ou quand on guérit quelque chose, ou quand un corps abîmé redevient voilà, les prêts purifiés, etc., ben on est dans la configuration déjà de la fin des temps. Donc, quelque part, il y a une forme d'anticipation. Donc, on voit bien que ces deux exemples des saints et puis des miracles, elle nous dit quelque chose, que la grâce, elle n'est pas inactive, quoi. Enfin, elle agit, quoi. Par contre, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut laisser la place, parce que sinon, ça ne marche pas. Voilà. Devant une telle surabondance de grâce, l'homme ne saurait rester passif, et si petit que soit son rôle, il n'en est pas moins nécessaire. Ce n'est pas lui qui a allumé la lampe, mais il doit veiller à ce qu'elle ne s'éteigne pas. L'adoption filiale est le bonheur de l'homme, elle n'est pas de ce monde, et cependant, elle commence dès maintenant, de façon très réaliste, dans la foi, l'espérance et la charité. Mais la puissance de Dieu a besoin de l'accord de notre volonté pour devenir efficace. Dieu se fait humble par infini respect de notre liberté, et sa puissance ne peut atteindre sa plénitude que dans la mesure où l'homme consent à vivre sous la mouvance de l'esprit, qui ne forge pas de force le libre arbitre, mais le modèle selon qu'il désire la déification. Donc plus on désire être uni à Dieu, plus on lui laisse la place, plus on est comme saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi, plus on a des chances d'être saint, voilà, ou de faire le miracle. C'est par son libre vouloir que le baptisé devient de plus en plus ressemblant au Fils. Et dans l'avènement de cette ressemblance sont respectés non seulement la liberté et la volonté humaine, mais aussi tous les traits caractéristiques de chaque individu. L'apparente retraite du Saint-Esprit, au sens en retrait, derrière la personnalité de chacun, est le signe éminent de la puissance et de la bonté divine, par lesquels l'homme est en même temps régénéré par l'unique sacrifice de la croix et appelé à collaborer à son salut par le jeu de toutes les énergies qui lui sont propres. Et de nouveau, ça, c'est pas non plus juste individuel, c'est aussi collectivement. Les miracles, en général, ils sont pas juste pour soi, ils sont plutôt pour les autres. Voilà. Donc il y a aussi, voilà, quelque part, on collabore à faire advenir plus rapidement la fin des temps. Donc le baptême, il nous laisse faire beaucoup de choses, voilà. Alors, petit résumé sur les histoires de loi. Là où le précepte, donc c'est la loi au premier sens du terme, avait échoué, ce que je vous ai dit sur l'Ancien Testament, et s'était révélé impuissant à nous libérer du déterminisme du péché originel. Ça, c'est le deuxième sens de la loi. Quand vous lisez saint Paul, vous avez ces trois sens qu'il faut à chaque fois les décrypter. Donc, voilà. L'esprit de vie, c'est-à-dire la présence de vie qui est dans le Christ Jésus, la loi au troisième sens du terme, réussit et me libère de la mort. La loi de l'esprit qui donne la vie dans le Christ a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc là, vous avez bien la loi de l'esprit. On parle de la troisième loi. Et la loi du péché et de la mort, c'est la loi au deuxième sens. Voilà. Penser l'œuvre de l'esprit qui inspire, me vivifie, n'est donc pas différent de l'expression du salut comme œuvre du Christ qui procure la réconciliation, ou comme décret du Père qui adopte, justifie, sauve. Se trouve ainsi exprimé un salut qui est croissance en nous de la vie de grâce et qui résulte identiquement de l'acte historique du Christ dont le Père nous donne aujourd'hui le pouvoir de disposer. En fait, l'idée, c'est de dire, parce que je vous ai beaucoup parlé de la ressemblance au Christ, ensuite de la vie de l'esprit, un peu du Père. Voilà. En fait, c'est la Trinité, elle est à l'œuvre dans le baptême. Et du coup, c'est comme si on était rendu quelque part contemporain de la mort et de la passion du Christ. Voilà. Donc, il y a quelque chose comme le temps qui s'annule et quelque part contemporain de la résurrection finale, puisque quelque part... c'est peut-être au moment du baptême où on est le moins... on est tout propre, quoi. On n'a même pas de péché. Dire au moment même, après, juste après, on va peut-être pécher, mais au moment du baptême, on est quasiment dans la situation finale, quoi. Presque. Voilà. Ils sont trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, et les trois ne font qu'un. Donc ça, c'est ce qu'on a lu dans Saint Jean il y a quelques jours. Et c'est bien ça. C'est-à-dire au baptême, on a bien la même chose. C'est-à-dire on a à la fois, on reçoit l'esprit... qui nous configure. On a à la fois l'eau qui nous montre ce que Jésus, qui nous lave du péché, c'est l'illustration du péché, et le sang, on est déjà aussi dans la passion et la résurrection du Christ, quelque part. C'est pour ça que l'Eucharistie est aussi très liée au baptême. Voilà. Donc on est bien dans cette simultanéité des choses. Par le respect de la singularité de l'être humain et par l'infinie variété des manifestations de grâce que ce respect engendre, l'esprit, lui, l'invisible par excellence, nous donne le privilège de porter au monde dès à présent le visage du Christ dans toute sa beauté. Tous nous sommes appelés à la sainteté. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et quelque part, c'est pour ça qu'on peut porter le nom de chrétien. Parce que, en fait, chrétien, ça veut dire qu'on porte le nom du Christ. Donc, alors, on n'est pas toujours aussi christifié que ce qu'on voudrait en portant ce nom-là. Mais quelque part, c'est ça. Voilà, on porte le visage du Christ dans toute sa beauté. Juste par notre baptême. Il reste un petit peu de choses à faire.